Voilà, alors je vais prendre deux petites secondes pour me présenter. Donc, comme on l'a dit, je suis médecin généraliste à Orléans. J'ai eu plusieurs vies jusqu'à présent. J'ai été médecin au SAMU, j'ai été dans le journalisme et la communication médicale. Et j'ai repris un cabinet de médecine générale en 2003. Et plus récemment, donc, j'ai suivi un cursus de formation en hypnothérapie à Paris 6, donc un diplôme universitaire d'hypnothérapie. Voilà, et donc j'ai incorporé l'hypnose médicale à ma pratique libérale en cabinet. Voilà, et je vais partager un petit peu tout ça. Alors je suis donc également chrétien engagé, j'ai même supervisé pendant un certain temps, 10 ans quand même, une communauté, je crois qu'on appelle ça pasteur, il me semble, hein. Tu me diras si je me trompe. Et voilà, et je m'intéresse beaucoup au lien entre la spiritualité, la santé, ayant les deux casquettes. Et donc j'ai commis récemment donc un livre qui pourrait vous intéresser, qui va en droite ligne dans ce que tu viens de partager. Voilà, qui malheureusement n'existe pas en français pour l'instant. Donc si quelqu'un connaît un éditeur, il est le bienvenu. Voilà, qui a été publié aux États-Unis sur les relations entre la foi, la spiritualité et la santé. Donc les liens qu'il y a, mais d'un point de vue à la fois, c'est un peu, enfin si sans orgueil, l'originalité de ce travail, c'est d'arriver à croiser, enfin d'avoir essayé en tout cas, de croiser à la fois des études scientifiques extrêmement bien documentées, puisque notamment aux États-Unis, les relations entre la foi, la spiritualité et la santé sont étudiées comme n'importe quelle discipline. Hein. Il y a des instituts dans toutes les grandes universités américaines à ce sujet. Et de croiser ça avec l'enseignement biblique, et en particulier les évangiles. Et au cours de ce travail, me suis aperçu finalement qu'on pouvait lire les évangiles, et en particulier les grands préceptes hein, que Jésus nous laisse, un peu comme des préceptes de bonne santé. Peut-être davantage encore que des préceptes moraux. Donc la morale, la spiritualité, la santé, tout ça est très intriqué. Hein, et nous sommes, ce qui nous ramène vraiment à la réalité, que nous sommes des êtres extrêmement complexes. Voilà. Et qu'il faut garder dans tout ce que nous faisons, dans toutes les approches que nous avons, une grande humilité. Voilà. Donc la souffrance, la maladie. Donc voilà, j'en ai amené quelques exemplaires si quelqu'un est intéressé par le sujet et lit l'anglais. Voilà. Et pour rebondir un peu sur ce que tu partageais, Luc, voilà, le thème, la guérison à tout prix ou à n'importe quel prix, ça nous ramène à la maladie. Mais la maladie, qu'est-ce que c'est? Bon, difficulté de définir la maladie. Hein, même l'OMS n'y parvient pas complètement. La maladie serait une sorte de déséquilibre, d'une sorte d'équilibre, mais en sachant que cet équilibre est très précaire. Et on a introduit récemment la notion de... pour dépasser un peu une approche purement mécanistique, la notion de bien-être aussi. Ce qui nous fait distinguer vraiment la maladie, est-ce qu'on peut la distinguer, la maladie et la souffrance. Voilà, toutes les souffrances ne sont pas une maladie physique, hein, donc il faut essayer d'élargir un petit peu sa vision. Et puis tout en restant humble, parce que finalement, comme je dis souvent à mes patients, enfin de temps en temps à mes patients, qui me demandent « Docteur, est-ce que c'est grave, est-ce que je vais mourir ?» Je dis « Oui, bien sûr ». Peut-être pas tout de suite, peut-être pas à cause de la raison pour laquelle vous venez me voir, mais oui, voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'on est, ici-bas et qu'on est soumis à ces préoccupations pour un temps limité, d'accord ? Et que peut-être l'intérêt, ça serait de voir un peu au-delà, c'est le cas de le dire, au-delà de notre finitude physique, voilà. Et nos préoccupations, voilà, doivent aussi nous porter à... travailler, hein, comme dit l'Évangile, à notre salut, travailler à notre vie future, qui sera bien plus sympa que celle qu'on a ici-bas. Enfin, il faut l'imaginer. Alors, on va parler de l'hypnose. Donc moi, je ne vais pas avoir une approche spirituelle. Je vais vous parler de l'hypnose en tant que discipline médicale. Alors l'hypnose, on en a... non, attendez, oh là là. Je commence à... Qu'est-ce que je fais là? Voilà. C'est là qu'il faut que j'appuie. Voilà. Alors l'hypnose médicale, l'hypnose, on en a souvent un petit peu cette approche limitée. Donc on se rappelle tous de notre enfance, le livre de la jungle, hein, et confiance mon enfant. Voilà, avec les yeux du serpent qui hypnotise m'oublie. Ou bien on a cette approche-là, hein, dormez je le veux, l'hypnose de foire, Mesmer et compagnie. Voilà. En réalité aujourd'hui l'hypnose, en particulier l'hypnose médicale, c'est plutôt ça, vous voyez. C'est... le manuel d'Oxford de l'hypnose, voyez, donc avec toutes les recherches qui sont menées là-dessus, des concepts qui sont extrêmement compliqués. Voilà, je vous ai amené un autre livre dont je me sers pas mal, dont je me suis pas mal servi pour faire ce sujet. Donc, l'hypnose est un champ médical aujourd'hui qui est extrêmement développé, qui donne lieu à énormément de travaux de recherche clinique en psychiatrie, en psychologie clinique, en psychologie sociale. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut définir le phénomène hypnotique ? Donc, ces deux chercheurs qui ont proposé cette définition, vous allez voir que c'est extrêmement difficile de ranger l'hypnose dans des cases, comme je le disais tout à l'heure un peu en préambule. Donc, ça serait une modification de l'activité mentale habituelle, telle qu'on est là, hein, qui survient après une procédure d'induction. Et là encore, déjà, on peut mettre des petits bémols, là, parce qu'il y a des états hypnotiques qui sont spontanés aussi. Donc, c'est pas forcément en lien avec une procédure particulière qui va induire un fonctionnement mental un petit peu particulier, qui est vécu, alors ça c'est intéressant, de manière subjective. Donc le patient va le vivre de manière subjective comme une absorption, une focalisation de l'attention, une inattention à l'égard des stimuli extérieurs et une réduction des pensées spontanées. Voilà. Donc il y a une espèce de focalisation de l'attention que le thérapeute, que l'hypnotiseur va induire, c'est pour ça qu'on parle d'induction, et qui va aboutir à ce fonctionnement mental un petit peu particulier, dont on a des preuves, hein, c'est pas juste une sensation, on va dire, hein. On va voir tout à l'heure qu'au niveau électroencéphalographique et imagerie fonctionnelle cérébrale, on a des traces, on a des indices du phénomène hypnotique. Alors au cours de la transe, alors c'est un terme qui, voilà, alors il faut falloir mettre un petit peu, comment dire, au second plan, toutes les idées préconçues qu'on a sur les termes. Hypnose, déjà le terme n'est pas adapté, parce que hypnose réfère plutôt au sommeil, alors que l'état hypnotique est plutôt une veille extrêmement lucide, hyper lucide, mais sur un domaine très concentré. Donc l'hypnose, voilà, le terme hypnose qui a été un peu voilà, établi n'est pas forcément le plus adapté. Le terme de transe qui définit un peu cet état parallèle, cet état différent, vous verrez qu'il y a d'autres termes qui ont été proposés pour définir cet état un peu particulier. Voilà. Donc au cours de cet état particulier, cette transe et sous l'influence des suggestions donc de l'hypnotiseur, le sujet va expérimenter plusieurs choses. Donc d'abord une altération des facultés sensorielles et motrices, donc que le sujet, que le patient va percevoir de manière très nette. Alors en fonction de la sensorialité de chaque personne, ça peut s'accompagner d'hallucinations, c'est-à-dire que les gens, par exemple, au décours d'une séance, vont me dire ben, « Moi, pendant que vous me parliez, je voyais des flashs lumineux. » Voilà. Donc ça, c'est plutôt les gens qui ont une sensibilité visuelle. D'autres qui ont une sensibilité plus kinesthésique, hein, dans le mouvement, ils vont avoir l'impression que leur corps bascule, voilà, qu'ils changent de position, alors qu'ils restent parfaitement stables dans leur fauteuil. Hein. Voilà, donc une altération des facultés sensorielles, même les sons, les bruits extérieurs deviennent un petit peu plus distants. Certains vont dire « Ouais, je vous entendais toujours, mais votre voix était beaucoup plus éloignée. » Un certain degré d'amnésie, alors c'est pas toujours le cas. Alors, l'amnésie est un peu... vous avez fait toute cette expérience en vous réveillant le matin d'un rêve que vous venez juste de faire parce que vous étiez en sommeil paradoxal juste avant, et avant de vous réveiller. Et puis, le rêve est très, très intéressant, très passionnant. Et le temps que vous descendiez à la cuisine pour le raconter à vos parents, à votre conjoint, les choses ont disparu. Voilà, ça ne s'est pas gravé dans votre mémoire à long terme, c'était juste dans la mémoire à court terme. Et c'est un peu ça que vivent certains patients après une séance d'hypnose. C'est pas toujours, ça dépend encore de chaque individu, de sa sensibilité. Les gens qui disent « je sais que vous m'avez parlé, je sais tout ce que vous m'avez dit, mais j'ai complètement oublié ce que vous m'avez dit ». Voilà, c'est assez étonnant, donc une amnésie rétrograde, parce que ça s'est gravé dans la mémoire à court terme, pas à long terme. Donc voilà, donc l'amnésie post-hypnotique, comme on dit, et l'adoption de fausses croyances à l'égard de lui-même et de son environnement. Et on va y revenir sur cette dernière phrase. Voilà. Donc c'est ça plutôt l'hypnose aujourd'hui, hein, enfin l'hypnose médicale. Je sais pas, j'empêche les gens de voir. Voilà. Donc vous voyez, un sujet et un hypnotiseur, un thérapeute. Donc c'est une relation. Alors l'hypnose, comme disait un journaliste scientifique, l'hypnose, comment ça marche? Voilà, on ne sait pas très bien encore, malheureusement. Alors il y a quelques pistes quand même. Alors c'est là que ça se situe, en revanche. L'organe qui va nous permettre de vivre toutes ces expériences, c'est notre cerveau. Donc 170 milliards de cellules, donc 90 milliards de neurones, plus des cellules de soutien qui permettent au cerveau de ne pas s'effondrer sur lui-même. Mais surtout, chacun des neurones peut former de 5 à 60 000 synapses avec d'autres cellules nerveuses. Et avec, dans toutes ces synapses, un courant électrique, un influx nerveux qui circule environ à 100 mètres par seconde. Notre ami neurologue, si j'ai dit des bêtises, il corrigera. Voilà. Voilà, juste une petite image pour vous montrer que on est loin encore, très très loin encore, d'avoir complètement compris comment fonctionne notre cerveau. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui peut, d'ici un an, deux ans, cinq ans, dix ans, être remis en question par des découvertes nouvelles. Donc on ne peut parler que de ce qu'on connaît à l'heure actuelle en fonction des recherches qui sont réalisées actuellement. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement, et ça c'est une évolution assez récente, contrairement à ce qu'on pensait au départ, on pensait au départ qu'on avait un cerveau et qu'il était déterminé pour toute l'existence. Notre nombre de cellules nerveuses, notre nombre de neurones était acquis à la naissance, ou du moins à la fin de la croissance, et que tout au long de la vie, c'était plutôt une lente dégradation. Les cellules nerveuses se détruisaient petit à petit, et puis on perdait des neurones, on perdait des facultés. Alors on sait que c'est complètement le contraire. C'est pas du tout un organe qui est figé, ni entièrement déterminé dans son fonctionnement, et ce, quel que soit l'âge de la vie. C'est-à-dire que même à 90 ans, on est capable de créer des nouveaux neurones, on est capable de créer des nouvelles connexions entre les neurones, on est capable de créer des nouveaux circuits de neurones, et ça a été très bien documenté, ce qui permet de, finalement, ne pas limiter les apprentissages à une certaine époque de la vie. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité cérébrale, c'est un concept qui est bien établi, neurogénèse, donc faculté de développer des nouveaux neurones à partir des cellules souches. Et ces deux caractéristiques, plasticité cérébrale, neurogénèse, permettent de reconfigurer en permanence les circuits de neurones, sous l'influence de stimuli extérieurs. Donc les circuits, les interconnexions, à la fois des neurones entre eux et des grands systèmes de neurones entre eux, y compris d'un hémisphère cérébral à un autre hémisphère cérébral. Donc ça veut dire, toujours, et c'est ça la caractéristique du cerveau humain, c'est qu'il y a toujours possibilité de créer des nouvelles associations, donc d'acquérir des nouveaux apprentissages, et ce jusqu'à un âge très avancé de la vie. Bien sûr, indépendamment de toute pathologie neurodégénérative, ça va de soi. Là, je parle du cadre physiologique. Un autre aspect qui est important à prendre en considération si on veut aborder le thème de l'hypnose, c'est que ce que nous vivons, finalement, dépend d'un tas de facteurs. Ils ne dépendent pas que de nos connexions de neurones entre eux. Il ne faut pas avoir une approche purement mécanique de la conscience. Alors là, c'est un autre sujet, la conscience. Mais notre vécu, en fait, on va y revenir tout à l'heure, y compris ce qu'on est en train de vivre ensemble à l'heure actuelle, moi, vous, chacun de nous, les uns avec les autres, ça dépend de notre interprétation. Notre cerveau va interpréter une réalité, ce qui fait qu'il n'y a pas une seule réalité. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est là, vingtaine de personnes, 30, 50 personnes, peu importe, voilà. Il y a 30 à 50 vécus différents. On est en train de vivre la réalité dans laquelle nous sommes. C'est une réalité. On peut pas, voilà, c'est pas un fantasme dans lequel on est. C'est pas un rêve. Mais on a chacun notre façon de vivre cette réalité en fonction d'un tas de paramètres. Et un paradigme, c'est l'ensemble des expériences, des croyances, des valeurs qui vont influencer notre façon de percevoir une réalité et de réagir, d'interagir avec cette perception. C'est-à-dire, face à une réalité donnée, on va adopter un comportement. Un comportement qui est cohérent avec la vision du monde que l'on a. Et cette vision du monde, elle est étroitement dépendante des expériences qu'on a faites. Elle n'est pas dépendante uniquement de notre patrimoine génétique. Elle est dépendante de notre vécu, de notre environnement, notre éducation, les valeurs qu'on nous a transmises, les croyances qu'on a adoptées. Et tout ça va influencer notre perception de la réalité. Donc ce système de représentation, ce paradigme, il va permettre de définir notre environnement. Et notre définition de l'environnement, c'est ce que je vais te dire là. Notre environnement, c'est cette réunion qu'on a là. C'est peut-être ce qu'on va faire tout à l'heure, après la réunion, etc. Eh bien, on en a une représentation interne. Et on va communiquer, on va se comporter, on va interagir à propos de cet environnement. Et on va essayer de le comprendre, de le prévoir. Tout ça en fonction de ce système de valeurs qui est le nôtre. Ça va, tout le monde suit ? Alors, compte tenu de tous ces éléments, l'hypnothérapie va permettre d'introduire chez une personne donnée, alors je parle de patient parce que moi je me situe dans le cadre de la thérapie, l'hypnothérapie va permettre d'introduire chez une personne une nouvelle vision du monde, une nouvelle interprétation de sa réalité. On ne va pas changer la réalité, mais on va permettre au patient d'adopter une nouvelle vision de cette réalité. Parce que c'est possible, tout simplement. Voilà. Donc c'est un outil qui permet d'apporter une nouvelle vision de la réalité, une nouvelle vision de la réalité qui va davantage convenir au patient. Et c'est là où on rejoint la souffrance. Et en médecine, on est confronté à juste un tout petit exemple que je prends souvent avec mes patients parce que j'ai un entretien avec eux pour leur expliquer. Parce que souvent, les gens viennent avec les a priori habituels de l'hypnose. Alors, ils ont très envie, mais en même temps, ils disent « Ouais, mais vous allez me manipuler, vous allez prendre le contrôle sur moi. » Je dis « Attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. » Alors, je n'ai pas une heure et demie pour le faire, hein, comme ici, mais voilà. Je prends un exemple très simple. Vous prenez deux personnes de même âge, 25 ans, accident de moto, amputé d'une jambe ou bien paraplégique dans un fauteuil roulant. Il y en a un qui va se suicider parce qu'il va trouver que sa vie est foutue et qu'il ne pourra plus jamais rien faire. Et puis l'autre qui va être champion aux Jeux Olympiques, Paralympiques. Même pathologie, même âge, etc. Deux visions complètement différentes d'une même réalité. Donc dans un cas comme celui-là, qui est un peu schématique, hein, je vous l'accorde, mais ça permet d'introduire chez le patient une autre vision de la réalité. Ça va lui permettre d'adopter pour lui-même, c'est pas une vision qu'on va lui imposer de l'extérieur, mais on va lui permettre d'une certaine manière d'accéder à une nouvelle vision de sa réalité, qui sera beaucoup plus acceptable pour lui. Et là on est dans le domaine de la thérapie. Alors, le processus hypnotique, un peu comme il a été développé par Roustan, notamment Jean-Marc Benayem, qui était mon directeur de DU. Donc ici, on a, est-ce que tout le monde voit ? Voilà. On a ici ce qu'on pourrait appeler la veille ordinaire, tel qu'on est là. Voilà. Le patient, au début de séance, il est en veille ordinaire. Hein, voilà. Et... le phénomène hypnotique est une espèce de transition douce, un peu comme le sommeil d'ailleurs. Hein. Si ça vous est déjà arrivé de vous endormir devant la télé, vous ne savez pas vraiment à quel moment vous êtes endormi. Et bien souvent, vous vous rappelez que vous êtes endormi quand vous vous réveillez. Vous dites « zut, je me suis endormi ». Parce que c'est un continuum. Voilà, le cerveau passe d'un état à un autre, très progressivement, sans qu'on s'en rende compte forcément. Et puis à un moment, une fois que le phénomène est abouti et qu'il s'arrête, c'est là où on se rend compte que voilà, quelque chose a changé. Donc dans cette veille ordinaire, il y a ce qu'on va appeler le réel. Voilà, c'est notre appréciation de la réalité dont je parlais tout à l'heure. Donc la cognition est forte, c'est-à-dire tous nos sens sont développés. On est capable de sentir des odeurs, on est capable d'entendre des sons, on est capable voilà, de ressentir des positions. Et c'est là où va commencer le processus d'induction. Donc on va induire par des techniques dont je vais vous parler tout à l'heure, qui sont essentiellement une focalisation sensorielle, c'est-à-dire on va inviter la personne à focaliser son attention sur certaines choses. Alors, on va utiliser différentes, comment on pourrait dire, portes d'entrée en fonction de la sensorialité du patient qui aura été définie au préalable avec lui pour connaître sa sensibilité. Hein, si c'est quelqu'un, par exemple, alors on a un petit interrogatoire avec le patient, voilà, on lui demande ses goûts, on lui demande ce qu'il fait dans la vie, etc. Si la personne vous dit « ouais, je fais du skateboard, de la planche à voile, du kitesurf et du golf », vous pouvez être sûr à 99% que c'est quelqu'un qui est kinesthésique. Donc vous allez utiliser une porte d'entrée kinesthésique. Vous n'allez pas lui faire imaginer la 9e symphonie de Beethoven, voilà, ou une salle de concert. Ce n'est pas la bonne porte d'entrée forcément. Alors il peut être aussi auditif, pourquoi pas. Voilà, donc en fonction des sensorialités, ou des grands axes de sensorialité du patient qu'on aura pu essayer de déterminer par un petit interrogatoire, on va utiliser ça pour le faire imaginer. Voilà, une autre réalité qui pourrait être différente. Et si on a utilisé la bonne porte, ça fonctionne. C'est-à-dire que, voilà, ça lui parle au patient, hein, pour dire les choses simplement. Et là, on est, voilà, les choses sont en train de se croiser. Peu à peu, le patient va perdre le contact avec la réalité habituelle. Par exemple, vous donnez juste un petit exemple, quand la personne est assise dans le fauteuil où je pratique l'hypnose, au début, je lui fais remarquer qu'elle est... les sensations qu'il éprouve dans le fauteuil, voilà, donc ça déjà, ou par exemple sa respiration, vous voyez, est-ce que vous êtes déjà senti respirer? Est-ce qu'on se sent respirer habituellement? Ben non, on respire sans même y penser. Mais si vous vous arrêtez et vous commencez à penser à votre respiration, vous vous sentez respirer, forcément ça bouge. Un exemple, vous êtes assis sur la chaise, voilà, on va faire un petit test, vous êtes assis sur la chaise, sentez votre assise, est-ce que vous y arrivez? Focalisez votre attention sur vos deux fesses, pardonnez-moi. Mais bon, c'est là que ça se passe. Si vous focalisez votre attention sur vos deux fesses, vous commencez à sentir la chaise sous vos fesses. Et vous commencez à sentir vos fesses, alors que juste avant, vous ne les sentiez pas. Sauf s'il y avait un inconfort, une douleur quelconque. Ok ? Voilà, focalisation de l'attention. Et quand la transe commence à se produire, le sujet perd peu à peu ses repères habituels, c'est-à-dire qu'il va plus trop savoir où finit son corps, où commence le support, le fauteuil.